va pouvoir commencer ? Allons-y !
Les parlementaires et le théâtre, la tribune et la scène.
Voilà en gros la conception générale de Napoléon. Importance du théâtre en tant qu'instrument de gouvernement. Maintien de la censure, évidemment, et réduction du nombre des salles.
Sous l'Empire, comme toujours, les choses étaient carrées. Mais dès la monarchie constitutionnelle, la camisole de force va craquer et l'offre théâtrale s'étendre. Ce sera une tendance irrépressible. Au début du XIXe siècle, l'ouverture de chaque salle, mais aussi la représentation de chaque pièce, nécessitait une autorisation. La censure, à son tour, va s'éteindre, mais très lentement, par extinction du budget destiné à la financer. Chaque année, les parlementaires discutaient en effet précisément du financement de tout ce qui concernait l'opéra et le théâtre. Au 19e, la scène est très présente à la tribune. C'est un sujet qui permet aux députés des morceaux de bravoure et leur offre en outre la liberté de brouiller les clivages politiques. Combien de fois des élus de gauche se sont-ils offerts une image d'homme d'ordre en réclamant la censure contre des pièces réactionnaires et combien de fois des députés de droite ont-ils défendu contre leur apparence l'idéal d'un théâtre pour le peuple ? Que se passerait-il si on offrait beaucoup plus de places à prix réduit, demandait-il. Si on subventionnait des projets plus que des lieux, si on créait des lieux adaptés, là où les spectateurs ne les attendent pas, etc. Les questions qu'on identifiera plus tard comme celles de la décentralisation et de la démocratisation étaient déjà très présentes au XIXe siècle.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Sylvain Nicole, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Décembre 2015, soutenance de thèse, c'était où ?
C'était à l'ancienne école polytechnique.
Mazette. Et alors le sujet, la scène et la tribune de 89 à 1914, c'est en soi un spectacle, une soutenance de thèse. Vous aviez un public nombreux derrière vous qui guettait vos réactions.
Un public plutôt clairsemé, mais oui, on peut dire que c'est une mise en scène de son travail universitaire.
Et vous aviez face à vous 5 contradicteurs.
Exactement.
Donc c'est beaucoup plus impressionnant qu'un direct à France Inter.
Sans doute.
Bon, ben j'en suis convaincu. Je parlais de Napoléon, il faudrait remonter à la Révolution française, comme vous le faites dans cette thèse que vous avez soutenue il y a peu de semaines. Ça a été une explosion, la Révolution française, d'offres théâtrales. En même temps, des bornes, à certains moments, ont été posées pendant la Terreur, dans un débat à la Convention thermidorienne, après la chute de Robespierre. On s'inquiétait, chez certains élus, des dangers que représentait le théâtre. Et cette idée, évidemment, Napoléon l'a reprise à son compte.
Oui, la loi de 1791 crée une explosion théâtrale, probablement plus d'une cinquantaine de théâtres. Simplement, sous le directoire, en 1798, on discute déjà d'une limitation des théâtres et Napoléon reprend ce débat, ce qui va se traduire par 3 décrets entre 1806 et 1807.
Vous appelez ça d'un joli terme ? Le Brumaire dramatique.
Oui, on peut appeler ça effectivement un coup d'état de Brumaire dramatique, puisque du jour au lendemain, on réduit le nombre de salles pour le limiter à 8.
8 à Paris, seulement.
Exactement, 4 théâtres officiels et 4 théâtres secondaires qui sont destinés à précisément protéger ces théâtres officiels, ces théâtres subventionnés, pour limiter la concurrence de tous ces petits spectacles.
Oui, l'intention était politique, mais la justification économique. Et dans une grande ville de province, il y avait combien de théâtres autorisés ?
Alors, on définit, ça dépend des villes de province, on définit un certain nombre de villes de province qui peuvent avoir une troupe sédentaire. Pour les autres, on découpe la France en arrondissements théâtraux, avec des troupes ambulantes qui circulent.
Dites-moi, pendant la monarchie constitutionnelle et même dès la restauration catholique, la camisole se desserre. Il y a un très joli argument qui était fourni pendant la restauration catholique.
Oui, il faut que le nombre de théâtres ne dépasse pas celui d'église. C'est une idée de Jean-François Grille qui est haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur.
Rassurez-vous, on est loin du compte pendant la Restauration. C'est pendant la monarchie de Juillet que le nombre des théâtres va, à Paris, s'accroître très sensiblement, avec l'alignement sur le fameux boulevard du Temple des théâtres du crime. Qu'est-ce que c'est ça, le boulevard du Temple ?
Le boulevard du Temple, c'est un lieu de promenade dont l'essor remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est lié au déclin des grandes foires de Paris, foire Saint-Germain, foire Saint-Laurent. Vous avez une dizaine de théâtres sur un espace très réduit de moins de 500 mètres. Et j'aurais presque envie de détourner la formule de Lagardère. On pourrait dire d'un Parisien de cette époque, si tu ne viens pas au théâtre, le théâtre viendra à toi.
Oui, ben, on va entendre ici une scène extraite des Enfants du Paradis de Carnet. Avec Étienne de Crous dans le rôle de Debureau. Père, c'est le moment de la parade, le soir, dans la fièvre d'avant le dîner. Vers quel théâtre va-t-on se diriger? Si on n'a pas envie d'y aller, il y a un acteur qui, comme vous le dites, vous prend par le bouton de la redingote.
Entrez, mesdames et messieurs, entrez. 1 franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné, et 4 sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez et venez voir. Les dangers de la forêt vierge, où le crime et la vertu, drôle pantomime féerique, exotique et pyrotechnique, entrez ! Et vous verrez une fillette de 15 ans, poursuivie par un lion de l'Atlas, un incendie de forêt, un enlèvement en ballon. Le spectacle va commencer, et ce spectacle est unique.
Quel joli théâtre. Quel beau métier, ça.
Oui, ce serait pas mal si on mangeait à sa faim.
Et quel public ! Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut, au paradis, mon paradis.
De l'œuvre du baron Haussmann, on retient la destruction de beaucoup de bâtiments du théâtre du crime. Il reste par exemple des jasets. Mais en fait, vous expliquez que sous Haussmann, sous le Second Empire libéral, économiquement très libéral, l'intention était peut-être de détruire pour des raisons d'urbanisme ces lieux, mais d'étendre l'offre théâtrale en la confiant à la municipalité et en développant la possibilité d'ouverture libre au privé.
Oui, le boulevard du Temple est détruit en 1862 lorsqu'on perce le boulevard du Prince Eugène, actuel boulevard Voltaire. Mais en 1864, le décret du 6 janvier libéralise l'activité théâtrale. Sur le modèle anglais, finalement, le Parlement britannique avait voté une mesure similaire en 1843, 20 ans auparavant. Par contre, on maintient la censure.
De l'œuvre de Napoléon Ier, il faut l'autorisation pour ouvrir un théâtre. Il ne reste donc que cette maxime, il faut l'autorisation pour jouer une pièce. Ça s'appelle la censure préventive.
Exactement, qui est mis en place en 1806 et qui consiste donc à examiner systématiquement le manuscrit des pièces qui doivent recevoir l'aval de la censure. C'est le directeur qui vient présenter ce manuscrit à la place au nom de l'auteur.
Alors, selon les époques, il y a entre 2 et 10 censeurs, et vous dites que plus l'offre théâtrale s'étend, plus le travail des censeurs est abondant.
Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une sinécure, forcément, d'être censeur. Il faut examiner les manuscrits, il faut assister aux répétitions générales. Pensons aussi au développement et à l'essor du café-concert, qui lui aussi est soumis à la censure.
Rude devoir.
Exactement.
Et un roman vient d'être consacré chez Gallimard, Clélia Auffray l'a écrit, à Charles Briffaut, qui était un censeur, qui était dramaturge aussi. Il arrive au censeur d'écrire?
Oui, mais on peut penser, Briffaut n'est pas le seul exemple, Jean-Louis Laya, qui a également ferraillé contre la censure et devenu lui-même censeur en 1827.
Je reviens au débat parlementaire, puisque la scène occupe beaucoup la tribune. Quand un député ou un ministre défend l'idée de la censure, il doit y avoir un moment rigolo, c'est quand il est obligé de citer les passages qui méritent censure à ses collègues.
Alors évidemment, le député qui attaque la censure cite les passages, et le ministre, pour légitimer la décision de la censure, cite également ces mêmes passages, ce qui est assez inconséquent, puisque le gouvernement autorise pour les spectateurs la possibilité d'entendre l'après-midi au Palais Bourbon, ce qui leur interdit d'entendre le soir au théâtre.
Ce que vous notez, c'est que la tribune, c'est un endroit où on peut parler sans beaucoup de compétences du théâtre, sans même y aller souvent, et c'est un endroit où on n'est pas prisonnier tellement de ses appartenances politiques. Il peut y avoir, sous la Troisième République par exemple, des députés de droite, voire d'extrême droite, qui demandent qu'on lève la censure.
Exactement, pour des mauvaises raisons, généralement c'est pour qu'on puisse représenter des pièces dont les thèmes sont l'antiparlementarisme, l'antisémitisme ou la lutte contre contre la franc-maçonnerie.
Mais il peut y avoir des députés de gauche qui défendent la censure. Vous racontez longuement une affaire qui a eu lieu en 1890 autour d'une pièce de Victorien Sardou qui s'appelle Thermidor. Il l'avait fait recevoir par le comité de la Comédie-Française ?
Oui, c'est une obligation, ce qui ne dispense pas la Comédie-Française ensuite de soumettre la pièce à la censure qui est acceptée.
Alors cette pièce se passait sous la Grande Terreur et ne donnait pas un portrait très favorable des membres ou des auxiliaires du comité de salut public.
Exactement, il ne s'agit pas d'une attaque contre la Révolution mais plutôt contre la Terreur et en particulier contre la figure de Robespierre. Sardou s'en justifie lui-même d'une formule assez géniale dans la presse en disant « Je veux régler son compte à Robespierre ».
Et à la seconde représentation, un tapage est organisé par l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche peut aussi parfois demander la fermeture d'un théâtre. Et à la tête du tapage, il y a un ancien communard.
Exactement, Prosper Lissagaré, aidé dans sa tâche par un certain nombre de députés radicaux, Clémenceau, Pelletan, etc.
Parce que au débat qui suit très rapidement à la Chambre, Clémenceau dit ceci à la tribune.
Messieurs, il a été joué à la Comédie-Française. Une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française. Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République. On ne pouvait pas le faire à la Comédie française. On a pris un détour, on s'est caché derrière Danton. Depuis 3 jours, tous nos monarchistes revendiquent à l'envi la succession de Danton. J'admire quant à moi combien de dantonistes inattendus ont surgi tout à coup de ce côté de la Chambre. Je dis, et je répète, puisqu'on m'interrompt, je dis que la pièce est tout entière dirigée contre la Révolution française. Voyez plutôt qui l'applaudit et dites-moi qui pourrait s'y tromper. Cette admirable révolution, par qui nous sommes, n'est pas finie. Oui, ce que nos aïeux ont voulu, nous le voulons encore. Nous ne laisserons pas salir la Révolution française par quelque spéculation que ce soit. Et si le gouvernement n'avait pas fait son devoir, les citoyens auraient fait le leur.
Dans une émission de France Culture signée Jean-Pierre Rioux, Henri Poirier dans le rôle de Clémenceau. Si la censure n'est pas obtenue, dit le député de gauche Clémenceau, eh bien le peuple va régler son compte à l'auteur et aux acteurs de la comédie française. C'est un renversement des positions qu'on imagine traditionnelles.
Oui, et c'est au nom d'une conception de la Révolution perçue comme un bloc.
Ah, c'est là que la formule est utilisée par
Clémenceau
dans un débat sur le théâtre.
La Révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire parce que la vérité historique ne le permettrait pas. C'est là.
Thermidor ne va pas être joué finalement longtemps à la Comédie française.
Hein. 2 représentations, par contre, la pièce est reprise au Théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1896.
Et tout de suite après, ça va être difficile de construire une statue à Danton, à l'Odéon.
Oui, le débat rebondit... Effectivement.
On a vu comment s'est éteinte la possibilité pour l'État d'empêcher l'ouverture des théâtres. Comment s'éteint la censure ? Et s'éteint non pas avec de grands débats comme celui dont on vient de passer un extrait, mais avec les débats budgétaires annuels.
Elle disparaît presque en catimini par la voie budgétaire. On supprime la censure tout simplement en supprimant l'allocation versée aux censeurs. En 1905 et en 1906, le gouvernement ne représente pas cette allocation.
Surtout qu'ils avaient beaucoup de travail, ils exigeaient un salaire conséquent. Les débats sur le théâtre, les débats budgétaires sur le théâtre, ne sont jamais omis, comme on le fait pour d'autres beaux-arts.
Non, depuis 1820, il faut rappeler que la subvention est discutée depuis 1820, la subvention théâtrale, le théâtre s'impose comme un sujet incontournable, c'est une exception française, l'Angleterre ne subventionne pas ses théâtres par exemple.
C'est une exception française qui a disparu depuis la 4e République, mais ça c'est une autre histoire, nous on parle de la 3e, à cet instant précis, voici un extrait d'un grand succès de la 3e République qui je pense n'a pas connu de problème politique, c'est La fille de Madame Angot de Lecoq. Pas de problème politique.
Non, pas spécifiquement.
Et beaucoup de représentations à partir de 1873. Il faut dire que ça ne se situe pas sous Thermidor, ça se situe pendant le directoire André Bauger et Ninon Valin. Est-ce qu'ils parlent politique ? Enfin, ils disent que parler politique, c'est très poétique. Est-ce qu'ils ne parlent pas d'amour ?
politique,
parlez politique avec vous.
Et pourquoi pas?
Mais entre nous, c'est un sujet peu poétique.
Je vais pourtant savoir pourquoi, lorsque vous êtes devant moi, renfermé d'une seule boutante, parlez-vous si jeune et si beau. Vous appelez le régime nouveau qu'aujourd'hui je vous représente.
Ah, ne me dites pas cela, si le nouveau régime est là, il est charmant car il ne prime que par l'éclat de vos beaux yeux. En le voyant si gracieux, si doux, comment ne pas être amoureux du nouveau régime.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Un enregistrement de 1935 de Derrière les fagots et qui craque avec vous, Sylvain Nicole, qui avait soutenu très récemment une thèse sur le sujet. Nous parlons de la tribune et de la scène, de la place qu'avait la scène dans les débats parlementaires. Et ici, nous sommes sous la Troisième République. Et l'opérette, à l'époque, pour certains qui aimaient le théâtre populaire, disaient, elle a un arrière-goût bourgeois. Pour ceux qui aimaient l'opéra, ils disaient que l'opérette était une dégradation de la musique.
Oui, l'opérette est rangée avec le café-concert comme symbole du mauvais goût qu'il faut combattre.
Alors parlons de l'opéra, puisqu'il faut être sérieux, on est à la chambre avec vous, Sylvain, Nicole. À la chambre, il y a la gauche, la droite, mais c'est plus compliqué que ça quand il s'agit de théâtre. Il y a, à vous lire, le parti des Athéniens et le parti des Béotiens. Qu'est-ce que c'est qu'un Béotien ?
Un béotien, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les arts et qui pense qu'on ferait mieux d'utiliser la subvention allouée au théâtre, par exemple, pour toute autre chose, par exemple les paysans ou les ouvriers.
Pas entretenir inutilement les danseuses. Vous qui enseignez dans cette bonne ville de Bar-sur-Aube, vous connaissez bien le nommé Michou.
Exact.
Député béotien par excellence. Il n'était pas député de Bar, il était député de l'Aube.
Député de l'Aube et de l'arrondissement de Bar-sur-Seine.
Ah, de Bar-sur-Seine. Ah oui, bon. Alors rendons à Bar-sur-Seine cet homme qui l'a représenté dans les années 1890, qui venait à vélo à la chambre, qui était très mal fagoté.
C'est son premier coup d'éclat en 1881. Il arrive effectivement à bicyclette en Palais Bourbon, ce qui lui vaut le petit surnom sympathique de député vélocipède que lui décerne le Figaro.
Et on l'appelait aussi Michou Bar.
Michou sur Bar, oui, parce que c'était un pilier de la buvette, lieu
c'est
de sociabilité.
C'est pas à cause de Bar-sur-Seine. Et lui, il disait, j'ai pas les moyens d'aller à l'opéra. Alors l'opéra lui donnait des billets de faveur ?
Les directeurs ont tenté effectivement de lui donner des billets de faveur et il le met en scène à la tribune précisément pour dire « Mais regardez, on tente de me corrompre, c'est un scandale ».
Les députés béotiens s'en prenaient régulièrement à l'opéra. Alors sauf le respect que nous devons tous à l'abbé Pierre, je vais ranger un instant l'abbé Pierre qui fut député aussi en son temps dans les rangs des béotiens. Jamais l'abbé Pierre ne manquait une occasion d'attaquer l'opéra.
Je leur ai dit à chacun de ceux que j'ai pu rencontrer, même si vous êtes le meilleur du monde, intelligent, désintéressé, par votre fonction, inévitablement vous paraîtra toujours plus urgent la modernisation de l'opéra que la mise de cabinet aux deux courantes dans les bidonvilles. Non pas parce que vous n'avez pas de cœur, mais parce que votre fonction vous fait un devoir d'aller à l'opéra de temps en temps pour des réunions diplomatiques, etc. Et si vous voyez que le décor est sale, vous dites « Allez, changez-moi ça, dès le lendemain ». Mais jamais votre fonction ne vous fait un devoir d'aller là où on pleure, là où on est indignement oublié, écrasé. Alors il faut que les privilégiés ouvrent les yeux, sinon qu'ils ne s'étonnent pas d'être haïs.
L'abbé Pierre, en 1987, qui s'étouffe toujours de colère quand il évoque l'opéra, où vous avez noté, Sylvain Nicole, qu'il n'imagine pas qu'on donne des représentations. Il imagine que c'est simplement des lieux de négociations diplomatiques et politiques. Si l'abbé Pierre avait été plus souvent à l'opéra, ou si ça avait été un homme du 19e siècle, il aurait su que longtemps, les théâtres, les billets des places de théâtre subventionnées étaient frappés de l'impôt des indigents.
Oui, qu'on appelle le droit des pauvres, c'est une idée qui remonte à l'Ancien Régime et que Napoléon institutionnalise en 1809, qui consiste à prélever 10% des recettes brutes sur tous les théâtres, qu'ils soient subventionnés ou non.
Mais l'abbé Pierre aurait été très content.
On peut l'imaginer.
Mais les directeurs de théâtre ont fait des pieds et des mains pendant des décennies pour supprimer cette taxe.
Bien sûr, parce que c'est évidemment une charge en plus qui alourdit considérablement le budget et donc il demandait la suppression ou en tout cas un allègement de cet impôt.
Parce qu'il disait, si c'était une taxe sur les bénéfices, ce serait bien, mais c'est une taxe qui provoque le déficit.
Oui, alors c'est assez technique, c'est parce que l'impôt est théoriquement au départ prélevé non pas sur la recette directement, mais c'est un impôt supplémentaire au prix de la place. Et au cours du 19e siècle, en fait, les deux ont fusionné et les directeurs jouent sur cette ambiguïté.
Non, mais il faut être technique parce que la taxe sur les indigents, ça permettait d'augmenter le prix des places, en fait.
C'est ce qui se passe exactement à la fin du 20e siècle.
Ça disparaît quand, la taxe sur les indigents?
Sous le régime de Vichy.
Donc, ça a duré jusqu'en 1940.
Oui, pendant toute la Troisième République, le droit des indigents perdure.
Encore un reproche que l'abbé Pierre était en droit de faire au régime de Vichy qu'il a combattu. L'idée qu'il puisse y avoir du théâtre populaire, ça n'a jamais beaucoup effleuré l'esprit de l'abbé Pierre. Pourtant, on voit sans cesse dans les débats annuels et parfois plus fréquents du Parlement sur le théâtre, des députés, alors réclamer quoi par exemple? Des prix réduits à l'opéra et des prix réduits dans les théâtres subventionnés?
Par exemple, il y a deux grandes formes de démocratisation théâtrale, pour simplifier, une démocratisation théâtrale qu'on pourrait appeler interne au théâtre subventionné, qui va passer par des séries de représentations à prix réduit, par exemple, ce qui fonctionne pas très bien parce que, dans le fond, ce sont les bourgeois qui vont profiter de ces prix à tarif réduit, je pense au lundi populaire de l'Opéra Comique, mais il en est de même de la...
Alors là, c'était le lundi à l'Opéra Comique, c'était moins cher. Et ceux qui venaient, c'était pas ceux qui n'avaient pas d'argent, c'était ceux qui voulaient dépenser moins d'argent.
Exactement. Ouais. Les bourgeois économes.
Les bourgeois économes. C'est drôle parce que c'est exactement les mêmes réflexions qu'on fait maintenant dans l'économie de la culture. On s'aperçoit que si on crée la gratuité ici ou la diminution des prix là, ça va attirer d'abord ceux qui vont déjà dans les lieux culturels.
Il y a une certaine concordance des temps.
Alors, il y a aussi la possibilité, Robert Abirachet, quand il était directeur du théâtre à l'époque de Jacques Lang et après, disait que c'était ça qu'il fallait défendre. On va subventionner des projets qui aient un sens culturel ou bien un sens social. Ainsi, on subventionna, un peu avant la guerre de 1914, le premier théâtre national populaire. Faudrait dire le premier théâtre national portatif, comme dirait Jean Kergrist. C'était Firmin Gémier qui portait cette idée. Ici, on entend le manifeste qu'il a publié pour ce théâtre national populaire portatif dans une interprétation d'une émission de radio du grand Léon Chancerelle.
Le théâtre en pierre, le théâtre fixe, est une hérésie. Il est contraire au principe vital, à l'idée fondamentale du théâtre. Peut-on comparer ce théâtre aux racines de pierre, aux pieds stupides, encastrés dans d'autres immeubles qui se rangent le long du trottoir pour laisser passer la foule, qui a l'air d'une maison comme une autre maison, le théâtre qui attend le spectateur et que le spectateur s'est trouvé là toute l'année, dont les étages et les différentes catégories de places rappellent au public qu'il est divisé, lui aussi, par classe sociale? Peut-on comparer ce théâtre-là à un théâtre qui, tout à coup, traverse la ville au bruit de ses 8 locomotives, de ces voitures, camions, ateliers, qui vient se mettre sur une place, sur un boulevard, barre la route, force le passant à s'arrêter, à regarder sa façade, ses affiches, le passant qui sait que cette construction ne sera plus là le lendemain et ne reviendra que dans 1, 2 ou 3 années.
Vous aurez deviné que la caravane du Théâtre National Populaire est un peu coûteuse hein, dans l'esprit de Firmin Jamier. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas marché très bien.
Non, 1911, la première tentative, et effectivement, le coût était faramineux.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas subventionner des théâtres de plein air? Alors, sous la Troisième République, on y a beaucoup pensé. Alors, Béziers est très célèbre aujourd'hui, mais pour des raisons autres... Elle était très célèbre, cette ville de l'Hérault, pour les opéras qui montaient un nom à retenir, Castelbon de Beaux-Hôtes.
C'est poétique.
Ouais. C'est quoi, c'était des grands opéras populaires?
Alors, ces théâtres, oui, le mouvement démarre à Orange, en fait, dès la fin du Second Empire, en 1869, et s'étend ensuite aux villes du Midi. Effectivement, on y joue des opéras, éventuellement des pièces dramatiques adaptées, je pense à Oedipe par exemple, et on a très souvent la présence des grands sociétaires de la comédie française.
Et vous citez beaucoup d'autres théâtres qui sont moins connus, en plein air, la Motte Saint-Héray, Plougeant, je dis ça pour nos auditeurs de toutes les régions, Champigny-sur-Marne, il n'y a pas que les Guinguettes. Et alors, dans votre chère Normandie, c'est
Corneville.
Qu'est-ce que c'est, ça, Corneville-sur-Risle? Alors là, il y avait un théâtre en plein air.
Exactement. Et d'ailleurs, on peut rappeler que la ville de Corneville a inspiré une célèbre opérette, Les Cloches de Corneville.
Ah, ben voilà une origine que beaucoup d'entre nous ignoraient. Un théâtre populaire a survécu, c'est le théâtre de Bussan, auquel nous avons déjà consacré une émission. Beaucoup de députés de droite pouvaient être favorables au théâtre populaire.
Oui, la question du théâtre populaire transcende les clivages politiques, même si les tensions ne disparaissent pas totalement. Je pense en particulier à un lobby théâtral, le groupe de l'art, qui rassemble aussi bien des députés radicaux socialistes que des députés nationalistes, par exemple.
La Tribune et la Scène, c'est le titre de la thèse que vous venez de soutenir, qui mérite un éditeur, où vous consacrez un chapitre au sujet qui va nous intéresser demain. Vous savez que régulièrement, nous diffusons des restitutions de séances parlementaires par les comédiens français au théâtre du Vieux Colombier. Demain, on diffusera la séance du lendemain de J'accuse de 1898, votre période, Sylvain Nicole. Vous citez Henri Haine, « La vie parlementaire absorbe les meilleurs comédiens de notre pays ».
Oui, c'est une boutade qui veut dire, qui compte, enfin, par laquelle Heine veut insister sur la théâtralisation de la vie politique et le rapport si présent pour les contemporains du 19e entre scène parlementaire et scène théâtrale. Pensons à l'hémicycle, tout simplement.
Alors, le Vieux Colombier, c'est austère, mais vous aviez la Tribune et les tribunes au temps du régime parlementaire. Et qui y avait-il dans les tribunes qui applaudissaient les gens à la Tribune?
Alors, vous avez des anciens parlementaires, le corps diplomatique, et puis, je dirais, un public comme vous et moi, et en particulier les femmes, dont l'importance est symbolique. C'est un peu l'ornement de la Tribune, comme la loge et son écrin au théâtre.
Il est plus facile de composer un ministère ou une troupe de théâtre? Je dis ça pour les comédiens français qui seront avec nous demain.
Vous leur poserez la question, c'est à mon avis insoluble.
Merci à vous Sylvain Nicole. Je ne rappelle pas le titre de votre thèse, allez si, La Tribune et La Scène. Ilinka Negulesco a préparé cette émission, elle mérite l'estime. Et à la technique c'était Maxime Ingrand et à la réalisation Jacques Sigal.